tout à fait autre chose maintenant, puisque nous recevons Nicole Maestracci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, vous avez dirigé la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie de 1998 à 2002, et vous publiez aux presses universitaires de France un petit que sais-je, et son titre, c'est tout simple, Les drogues. Alors on va en parler avec Daniel Messager, qui a étudié de très près ce petit que sais-je, comme moi. Alors, ce qu'on découvre, c'est que, bon, pour vous, l'alcool et le tabac sont des drogues. Mais ce que vous précisez dans le livre, c'est que finalement, cette réponse claire, c'est-à-dire alcool, tabac, ce sont des drogues, est assez récente, cette réponse. Ça date de 1999.
Oui, parce que lorsque j'ai été nommée à la MILT par le gouvernement Jospin, en fait, la MILT ne s'occupait que des drogues illicites. Et à la suite d'un certain nombre de rapports qui avaient été faits et de constats scientifiques qui montraient qu'en fait, il n'y avait pas véritablement un raisonnement rationnel autour du statut juridique des drogues. Au fond, c'était pas seulement le statut juridique qui en faisait la dangerosité. À partir du constat aussi qu'on avait, surtout en France, largement sous-estimé les problèmes d'alcool qui produisaient à la limite beaucoup plus de délits et beaucoup plus de dégâts sanitaires qu'un certain nombre de drogues illicites, j'avais proposé qu'on étende les compétences de cette mission à l'ensemble des drogues licites, c'est-à-dire tabac, alcool, mais aussi médicaments psychotropes, parce qu'on voit bien, il y a une consommation très importante de médicaments psychotropes dans notre pays, et on voit une augmentation de la consommation de ces médicaments chez les jeunes. Donc l'idée, c'était pas de dire qu'on allait changer les statuts juridiques comme certains l'ont craint, interdire l'alcool, interdire le tabac ou rendre légale telle ou telle drogue illicite, parce que ça obéit à des logiques internationales et européennes qu'on ne peut pas changer dans un seul pays aujourd'hui. Mais en revanche, c'était de dire attention, d'abord, les jeunes et les moins jeunes consomment plusieurs produits ensemble ou successivement. On peut pas focaliser sur un seul produit, et d'autre part, les produits licites, on en a sous-estimé à la fois l'impact sur la santé publique et aussi l'impact économique.
Ce que vous dites, l'alcool, voilà. Un ou deux verres par jour, pas de problème. Au contraire.
Ce que je trouve très important de dire, c'est que cette idée-là, qui a été longue à mûrir, hein, parce que le lobby de l'alcool était très fort, que les politiques étaient extrêmement divisées sur cette question, une fois que ça a été fait, donc en 99, le gouvernement prend cette décision, on fait un sondage un an après, eh bien il y a 85% des Français qui considèrent normal de dire que l'alcool et le tabac sont des drogues. C'est-à-dire que eux ont compris très rapidement que de consommer un verre et de consommer 10 verres, c'était pas la même chose. Ils avaient tous autour d'eux des gens qui avaient des problèmes d'alcool et ils en voyaient bien les conséquences. Et donc cette idée, au fond, qui est une idée de bon sens, est très rapidement passée dans l'opinion publique.
Daniel Messager.
Alors vous dites maintenant, et c'est tout à votre honneur, vous dites maintenant c'est normal. Mais il faut quand même repréciser que grâce à vous et grâce à ce que vous avez mené, quand vous dirigez la MILT justement, des idées nouvelles sont apparues, des choses qu'on n'entendait pas et qui étaient politiquement incorrectes. C'était politiquement incorrect de dire l'alcool, le tabac, c'est une drogue, parce que les gens qui fumaient, les gens qui buvaient beaucoup, on va préciser, beaucoup, ne s'estimaient pas drogués. Ils disaient, les drogués, c'est les gens qui prennent de la cocaïne, de l'héroïne, qui fument de la marijuana éventuellement, mais surtout pas nous. Et tout ça, c'est vous qui avez mené ce combat-là pendant plusieurs années pour faire reconnaître qu'il y avait des drogues et des dépendances. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce terme de dépendance. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens ont compris ce que c'était qu'être dépendant, qu'il y avait une addiction et qu'il pouvait y avoir une addiction aussi bien à l'alcool, au tabac, qu'à des drogues qu'on appelait avant dures ou moins dures?
Ce qu'on a essayé de dire, c'est que il y avait à la fois beaucoup de produits consommés, que ça obéissait à des motivations multiples qui sont assez naturelles et banales, c'est-à-dire à la fois la recherche de la performance, hein, le plaisir, mais aussi ne pas souffrir, qui est quand même une motivation humaine assez répandue. Et donc finalement, à partir de ces motivations, eh bien, on pouvait avoir envie de consommer des produits. Qu'ensuite, c'était pas la même chose de consommer peu et de consommer beaucoup. Et que c'était pas la même chose de consommer quand on avait une structure de personnalité très solide ou lorsqu'on était très vulnérable ou très jeune. Donc, on a introduit de la complexité. Je crois que notre responsabilité, c'est aussi de dire que c'est une chose complexe qui ne peut pas se résumer à des slogans ou à des politiques de communication.
C'est ce qu'on fait actuellement, par exemple ?
On a essayé de distinguer l'usage... l'usage abusif et la dépendance. La dépendance, ça veut dire on ne peut pas se passer d'un produit il est au centre de votre vie. Les dépendants sont relativement peu nombreux. Mais en même temps, on peut avoir une consommation abusive. Par exemple, on peut consommer de l'alcool de manière très intensive le samedi soir. Ça entraîne un certain nombre de dommages. On peut conduire après avoir consommé de l'alcool et ça peut entraîner un accident de la route. Et ça entraîne aussi des conséquences sur la santé. Et puis, on a un usage modéré ou occasionnel qui n'entraîne pas lui-même de dommages. Et donc, notre objectif, c'était aussi de dire attention, l'usage occasionnel, ce qui est important, c'est de ne pas passer à un usage nocif. Donc, je réponds à votre question de cette manière-là, c'est-à-dire en disant, je crois que les campagnes de communication, c'est des campagnes de communication, il faut en avoir parce que c'est le bruit de fond qui doit permettre que tout le monde connaisse le minimum sur l'ensemble des questions de drogue.
Mais ensuite, revenons sur le livre, je voudrais qu'on vienne sur le petit que sais-je, parce qu'il y a un chapitre est consacré à l'Union européenne et les législations sur les drogues illicites. Et alors, vous dites, vous écrivez que les compétences de l'Union européenne sont faibles dans le domaine des drogues. Ça m'a beaucoup surpris, ça.
C'est-à-dire que les compétences de l'Union européenne sont d'abord, c'est une question transversale, la question des drogues. Or, elles étaient traitées dans le cadre du troisième pilier, c'est-à-dire celui qui s'occupe de tout ce qui est police-justice. Donc, elles étaient surtout traitées par le biais police-justice. Et si vous voulez, comme toutes les questions de santé publique, les compétences de l'Union européenne étaient faibles en matière de drogue. En revanche, ce qui a été fait et bien fait dans l'Union européenne, c'est la création d'un observatoire européen des drogues qui a permis de comparer, de connaître et de comprendre aussi que contrairement aux idées reçues en France, eh bien les politiques européennes, elles sont relativement comparables. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les pays travaillent à partir de données scientifiques validées. C'est ce que j'explique dans mon livre. Dans les années 70, on ne savait pas grand-chose. Donc il y avait 2-3 experts qui disaient « moi je sais, voilà ce qu'il faut faire » et les pouvoirs publics suivaient ces experts. Maintenant, on a véritablement des données épidémiologiques, des données scientifiques. On sait beaucoup de choses sur les produits. On ne sait pas encore tout, mais on est quand même capable de dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et puis, troisièmement, à partir de ces éléments, eh bien, il n'y a pas 36 solutions possibles. C'est-à-dire qu'on sait que on a une marge de manœuvre qui est relativement faible par rapport aux politiques. Et c'est ce qui explique que dans l'Union européenne, finalement, les politiques sont bien plus comparables qu'on ne l'imagine.
Daniel Messager.
Alors, on va apprendre tout ça dans votre livre. On prend connaissance aussi de choses, encore une fois, politiquement incorrectes. Moi, ça m'intéresse de trouver ça dans des que sais-je. Par exemple, je vais vous en citer deux. 90% des consommateurs ne deviendront jamais dépendants. Ça, c'est pas politiquement correct de dire ça. On a l'impression que dès qu'on commence à toucher de la drogue, on va forcément tomber dedans, parce que du coup, la consommation fait forcément un peu moins peur. Vous dites aussi, rien ne permet d'affirmer, comme l'ont fait les ministres de l'Intérieur successifs, que 50% de la délinquance urbaine est liée à la drogue. Donc vous dites qu'il y a des ministres de l'Intérieur qui ont menti. Ça, on ne le voit pas écrit partout non plus. Vous êtes
c'est peut-être politiquement incorrect, mais c'est scientifiquement correct en tous les cas. Oui, la théorie de l'escalade, qui est une théorie qui est très répandue en France, qui est une idée reçue importante, c'est-à-dire que si on commence à consommer un produit, bien nécessairement on va devenir dépendant. Ça a été beaucoup dit sur le cannabis. On a dit si on consomme du cannabis, eh bien on va devenir dépendant à l'héroïne. C'est une idée fausse. En revanche, ce qui est vrai, c'est que tous les consommateurs d'héroïne ont commencé par le cannabis. Tous les consommateurs de cannabis ont commencé par le tabac et l'alcool.
Donc c'est pas complètement faux alors.
C'est totalement faux parce qu'ils ont commencé également par le lait et par autre chose. Ouais. Si vous voulez, le fait qu'ils aient commencé par le tabac et l'alcool, c'est assez logique. En revanche, il va y avoir un très faible nombre qui va effectivement devenir dépendant. C'est la raison pour laquelle il faut être véritablement pragmatique et en fait le point essentiel c'est de faire attention de repérer le moment où quelqu'un va aller mal et va basculer d'une consommation occasionnelle à une consommation abusive. Et repérer ceux qui vont mal, c'est pas seulement repérer le cannabis, c'est repérer aussi le risque de tentative de suicide, c'est le repérer le risque de fugue, c'est le repérer le risque de boulimie ou d'anorexie. C'est ça chez les adolescents, si vous voulez. Ça paraît de très bon sens, mais je pense que c'est là-dessus qu'on a encore des efforts à faire et sans focaliser sur un seul produit ou un seul phénomène.
Cela étant, vous parlez du cannabis et vous dites que c'est le produit illicite le plus largement consommé en France et dans tous les pays européens.
Absolument. Absolument. Mais je dis aussi, et c'est très important, que en France, on consomme beaucoup de cannabis et contrairement là aussi aux idées reçues, les jeunes néerlandais sont ceux qui consomment le moins de cannabis. Et pourquoi ? C'est parce que aux Pays-Bas ou d'ailleurs dans les pays du Nord, on a une culture mesures de prévention et une politique de prévention beaucoup plus inscrite dans la durée. Et moi, je plaide pour qu'on ait sur ces questions l'établissement d'une forme de consensus politique qui permettra de poursuivre des politiques dans la durée, parce que chaque année, il y a des jeunes qui deviennent adolescents et qui ont besoin d'avoir un message clair qui ne change pas tous les 5 ans. Voilà, je pense que c'est très important de le dire.
Voilà, merci Daniel Messager. Puis je rappelle le titre de ce livre qui paraît aux presses universitaires de France, Un petit que sais-je, signé Nicole Maestracci, consacré donc aux drogues, son titre, Les drogues. Merci beaucoup.